Ok, donc bienvenue pour la correction donc de l'oral 2 sur le problème avec prise d'initiative. Alors déjà on va voir la correction de l'exercice. Alors l'exercice, donc on a un carré ABCT de côté 10 cm. On enlève un même carré à chaque coin de ABCD pour obtenir le patron d'une boîte. Comment obtenir une boîte dont le volume sera maximal? Expliquez votre démarche même si elle n'aboutit pas. Ok, donc j'espère que vous avez compris. Donc on enlève les 4 petits coins, on replie donc ça forme une croix, on replie les côtés de la croix si on veut, et donc ça nous forme une boîte. Ok, alors, comment on va modéliser ça, comment on va résoudre ça? Donc on va dire que x, donc c'est la longueur du côté du carré qui est enlevé, du petit carré. Ça veut dire que donc sur la croix, donc qu'est-ce qui nous reste comme segment? Donc ça va être 10, la longueur totale, moins 2x, puisqu'on a enlevé deux petits coins de carré. Voilà pour la longueur, et donc comme il nous faut replier la boîte, donc le volume de la boîte, ça va être quoi? Ça va être base fois hauteur. La base, ça va être donc 10 moins 2x au carré, vous voyez, c'est le carré à l'intérieur, et puis la hauteur, ça va donc être le côté x. D'où ma formule, donc v de x, c'est x fois 10 moins 2x au carré. Bon, je peux développer un petit peu. Donc cette fonction, il va falloir que je trouve son maximum, donc je vais faire une étude de fonction, puisqu'elle est dérivable, je vais donc dériver. Alors en dérivant, ça me donne donc, alors je mets 4 en facteur, ça simplifie un petit peu, ça me fait 25 moins 20x plus 3x2. Je reconnais donc un trinôme du second degré, donc je vais pouvoir utiliser par exemple mon discriminant, delta. Donc B2 c'est 20 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois 25, donc ça va être 100, fois 3, 300. Alors 20 au carré c'est 400, donc ça me fait, le delta c'est égal à 100, c'est-à-dire 10 au carré. Et puis après, en faisant mes formules, je trouve que les solutions, c'est 5 et 5 tiers. Alors, n'oubliez pas hein, que x, ici, varie en fait entre 0 et 5, techniquement. J'ai mis 10 là sur la feuille, mais en fait, ça va de 0 à 5, puisque vous enlevez 2 carrés. Donc, voilà, on pourrait s'arrêter à 5. Ok, donc, j'ai mon expression V', d'accord, puisque je sais que... les solutions sont 5 et 5 tiers, donc je peux factoriser mon polynôme par x moins 5 tiers. N'oubliez pas hein, que devant ça, il y a le coefficient dominant de x carré, d'accord? Il y a le 3 qui est devant, d'accord? Donc comme j'avais déjà un 4 en facteur, ça me fait 4 fois 3, 12 facteurs de x moins 5 tiers, ok? Pour trouver le bon truc. Voilà, je peux étudier, donc je sais que V' s'annule en 5 tiers et en 5. Je connais les signes, le signe de V', puisque son coefficient dominant est positif. Donc il est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur entre les racines. Voilà, donc je déduis les variations de V. Vous voyez, j'ai mis le petit tableau de variation. La seule question donc moi que je me pose sur mon tableau de variation, c'est donc on veut le maximum, est-ce que c'est en 5 tiers ou est-ce que c'est en 10? Donc, 10 ça n'existe pas. Hein. En fait, ça s'arrête à 5, le x, mais bon, j'ai fait le calcul, et puis voilà, j'ai trouvé que le maximal, c'était obtenu pour V de 5 tiers, c'est-à-dire, ça nous fait 2000 sur 27 cm3, et une approximation de ça, c'est 74, quelque chose comme ça, cm3. Ok, donc voilà pour la résolution de l'exercice, alors on va passer aux corrections, à l'analyse des productions d'élèves. Alors... l'élève 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut trouver une longueur, une largeur et une hauteur, puis les multiplier. C'est tout à fait vrai. Avec une longueur de 6 cm et une largeur de 6 cm, on a une hauteur de 2 cm et un volume égal à 72 cm3. Donc il a fait 6 x 6, 36, x 2, 72. Hein. Avec une longueur de 4 cm et une largeur de 4 cm, on a une hauteur de 3 cm et un volume égal à 48. Donc, pareil, il a fait 4 x 4, 16, x 3, 48. Okay. Et en essayant d'autres valeurs, on trouve... un volume maximal de 72 cm3. Alors, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une méthode d'essai-erreur ou encore par tâtonnement. Il essaye les différentes possibilités. Il a quand même une bonne compréhension du problème initial parce que même s'il vous dit une longueur, une largeur, mais il sait que c'est un carré, il a compris quelle était la relation entre la longueur, donc le 6 par exemple, et puis le 10 cm du côté initial. Il a compris quelle était donc la relation, même s'il ne l'a pas écrite. Donc les formules qu'il utilise sont justes, le raisonnement est cohérent, la modélisation qu'il fait mais qu'il n'écrit pas, elle est bonne. Donc il y a quand même une bonne capacité à communiquer son raisonnement. Par contre, il ne cherche en fait que les solutions entières. Il essaye, vous voyez, 6 cm, 4 cm, etc. Il doit essayer d'autres choses, mais juste des entiers. Et donc, il ne voit pas qu'en fait, x pourrait prendre une valeur réelle, c'est-à-dire il n'introduit pas une variable réelle et il n'introduit pas de fonction. Donc, il y a des points positifs qui sont donc tous les aspects modélisation, etc. Mais le point négatif, c'est que ben il a pas du tout considéré il a, que ça puisse être un réel, le x. Et donc, forcément, il y a beaucoup moins de solutions. Ok, l'élève du numéro 2. Alors, il procède par tâtonnement, donc lui, il le dit directement. Alors, il fait 2 fois 6 fois 6 égale 72, c'est un peu comme son premier, comme le premier élève. 1,5 fois 7 fois 7, ça fait 73,5, et puis il continue comme ça. Mais on ne connaît pas le maximum, on pourra toujours trouver plus. Donc, vous voyez qu'il essaye petit à petit par tâtonnement, donc essai-erreur là aussi avec la calculatrice. Ok. Il faudrait tracer une courbe sur la calculatrice. La formule est 10 moins 2x fois 10 moins 2x fois x. Vous avez bien la formule du volume de la boîte que vous obtenez lorsque vous allez retirer les petits 4 petits carrés de côté x. D'après la courbe de cette fonction, le maximum est 74,007 pour x est égal à 1,6. Alors, donc, il comprend bien déjà le problème. Il commence donc comme tout à l'heure par essai-erreur, mais par contre, lui, il a il utilise vraiment des réels. Donc, vous voyez tout de suite, il essaye 2 et puis après il essaye 1,5 pour voir que ça augmente. Et puis après il essaye 1,75, il voit que ça augmente encore. Il a peut-être fait d'autres essais qu'il n'a pas marqué et que ça n'augmentait pas, mais en tout cas, il voit qu'il y a possibilité de réaugmenter les choses. Ok. Comme il a la formule, donc il a bien modélisé, donc ce que j'ai fait en introduction, là c'est la même formule que moi, 10 moins 2x au carré fois x. Donc voilà, il va tracer la courbe sur la calculatrice et puis regarder pour quelle valeur est-ce que ça admet un maximum. Donc, il comprend bien le problème, il introduit quand même la fonction, il ne dit pas exactement ce qu'est x, mais bon, ça se comprend très bien. Et puis, bon, bah, comme il n'arrive pas, il ne voit pas comment faire l'étude de la fonction, lui, il voit directement la résolution graphique avec la calculatrice et donc c'est ce qu'il fait. Donc il trace la courbe et puis il regarde pour quel x est-ce qu'il obtient le maximum. Le maximum c'est 74,07 et puis le x c'est 1,666. Donc c'est une bonne résolution graphique si on veut de ce problème, mais évidemment c'est pas une résolution mathématique avec une démonstration algébrique quoi. Ok. Et enfin l'élève 3, alors il procède par raisonnement. Bon bah oui, enfin ça. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, sinon on procède par hasard, je sais pas. Alors, le volume maximal doit correspondre à une forme particulière. Comme la boîte est un pavé, la seule forme particulière est un cube. Il faut donc retenir exactement 10 tiers pour un volume de 1000 sur 27, c'est-à-dire 37 cm3. Alors, ok. Donc, on voit un peu apparaître un argument un peu mystique, c'est-à-dire doit correspondre à une forme particulière. Alors, comment est-ce que c'est possible? Alors, en fait, c'est parce qu'il a fait une mauvaise induction. J'y reviendrai, mais en fait. Donc, il a fait dans toute sa scolarité, mais même avec vous, des problèmes comme ça où il fallait trouver une forme particulière, enfin un problème d'optimisation par exemple, du style R maximal, périmètre minimal, vous lui avez dit, c'est le disque, etc. Bref, il a fait un certain nombre d'exercices et puis il a vu qu'à chaque fois, il y avait une forme particulière. C'était un objet particulier, le carré, le losange, etc. Et donc, il en a déduit une induction un peu. Donc, c'est ça que j'appelle mystique, c'est-à-dire que. Ce qui est maximum, eh ben, ce sont des formes toujours particulières. Et là, il se dit, c'est un pavé, la seule forme particulière, ben, ça va être le cube. Et c'est ça qui va faire ma solution optimale. Voilà, donc il n'y a pas de raisonnement, il y a juste une induction, c'est-à-dire le passage d'observation particulière à une vérité générale. Et en plus, il n'y a pas de retour réflexif, parce qu'il pourrait très bien se dire ça, et puis essayer quand même une autre valeur. Avec la calculatrice par exemple, et puis se rendre compte peut-être que ah ben c'est tout, il y a plus que 37, et puis donc remettre en cause son raisonnement, mais là c'est pas ce qu'il a fait. Voilà, donc là il y a un petit peu de croyance non mathématique, hein, d'accord, et il n'y a pas de retour réflexif, il n'y a pas de critique sur son résultat, d'accord, il vous donne ça, et puis comme ça. Donc là c'est très embêtant parce que en maths, en fait, on cherche aussi à former un esprit critique. Voilà. Alors, je voudrais revenir, c'est un petit peu sur le vocabulaire. J'ai utilisé donc un moment variable, mais il y a le lien variable inconnu. Donc, je vous rappelle que une variable, donc vous avez le choix de choisir la valeur de x. Par exemple, dans la fonction f de x est égal à x2 plus 10x plus 5, vous avez le choix de, si x est défini sur r+, par exemple, vous avez le droit de prendre x comme vous voulez dans r+. Alors que quand c'est une inconnue, le statut d'inconnu, c'est par exemple lorsque vous avez l'équation x2 plus 10x plus 5 égale 0, là x il a une certaine valeur pour valoir 0, et ce qu'on cherche c'est quelle est cette valeur. Donc vous voyez, c'est pas la même chose, donc il ne faut pas confondre variable et inconnu. Et puis donc, en référence au dernier élève, la différence qu'il y a entre induction et déduction. Alors l'induction c'est donc une tentative de généralisation, c'est-à-dire on part d'observations particulières, d'un certain nombre d'observations particulières, et on a déduit une généralisation. Par exemple, si vous voyez des signes blancs tout le temps, enfin, vous n'avez que des signes blancs, vous pouvez en déduire que tous les signes sont blancs. Et cette induction-là, elle tombe le jour où vous voyez un signe noir. Donc voilà, par exemple, une tentative de, ce que c'est qu'une induction, alors qu'une déduction, c'est le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on va du général au particulier, c'est-à-dire qu'on a une loi générale et on veut en déduire quelque chose de particulier, du style tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ceci est une déduction. Alors en maths, ça peut aussi prendre une autre forme de déduction, c'est-à-dire le raisonnement déductif. C'est-à-dire que donc on part d'axiomes, par exemple les axiomes de la géométrie, donc les 5 postulats d'Euclide pour la géométrie plane, et puis après on va en déduire un certain nombre de propriétés, de théorèmes, etc., via des démonstrations. Donc voilà, donc ne pas confondre évidemment induction et déduction. Et enfin, donc le thème. Ah bah oui, le thème. Alors, le thème, c'est prédicatif. Donc c'est un thème qui est complètement différent des autres, parce que quand vous tombez sur un thème du style arithmétique ou suite, etc., je vous dis, une des choses à faire, à mon avis, c'est de regarder dans les programmes où est-ce que ce thème apparaît, de lister donc les différents niveaux. Hein, donc par exemple, sur l'arithmétique, ça va être troisième et puis terminale S. Pour les suites, ça va être première et terminale. De relever donc les différents points importants à avoir, par exemple sur l'arithmétique, ne serait-ce que en terminale, vous pouvez avoir plusieurs trucs, hein, multiple, diviseur, division euclidienne, c'est un point, congruence, c'en est un autre, nombre premier, c'en est un troisième, PVCM, PGCD, BESU, etc., c'en est un quatrième, d'accord ? Donc voilà, et puis après, essayez de mettre des exercices et de les situer par rapport à ça. Et après, je vous ai dit, dans ce type de leçon classique-là, essayer de prendre des exercices sur des thèmes diversifiés, c'est-à-dire dont le format est diversifié. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le type d'exercice, ça peut être un exercice guidé du style BAC. C'est bien pour vérifier les connaissances, etc., et que l'élève sache produire des démonstrations, réutiliser le cours. Il peut prendre des exercices de modélisation, donc vous simulez vous modélisez une situation concrète avec des mathématiques, ça montre à l'élève plutôt que les maths, ça sert à quelque chose dans la vie de tous les jours. C'est bien d'utiliser à un moment donné les TIS ou l'algorithmique, c'est pas la même chose, mais bref, voilà. C'est bien aussi de faire des exercices avec prise d'initiative. Donc, en général, il faut essayer de varier le format de l'exercice. Là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire on va vous demander un format d'exercice et maintenant, vous devez le décliner dans les différents thèmes, enfin, dans tous les thèmes que vous voulez, d'accord ? Le seul lien, c'est que ce soit une prise d'initiative. Donc là, si vous avez très très bien travaillé votre préparation aux oraux, vous avez déjà vu, alors peu importe, hein, c'est en probabilité, en arithmétique, en suite, etc., des exercices avec prise d'initiative, ou des exercices que vous pouvez transformer pas trop difficilement en exercices avec prise d'initiative. Mais voilà, donc c'est un thème très différent des autres, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas à regarder le BO pour dire c'est comme ci, c'est comme ça. Par contre, néanmoins, dans le BO, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup le terme résolution de problème. Alors pourquoi ? Donc, si vous voulez, c'est le temps, hein, les temps changent et ça revient sur le devant de la scène. Donc, on reproche en fait à l'enseignement qui est fait aujourd'hui d'être trop technique et trop. Les élèves savent répondre aux questions qui leur sont posées, mais ne savent plus résoudre des problèmes. On a vu ça avec les évaluations PISA, par exemple. Mais dès que le format change un petit peu, que c'est plus un problème qui est donné avec une question, etc., etc., les élèves ne le font plus. Et donc, on revient en se disant, ce qu'il faut, en fait, le but des maths, c'est pas de savoir faire des petites choses indépendamment, c'est de savoir résoudre des problèmes, donc d'avoir suffisamment de recul pour introduire soi-même une fonction, savoir étudier la fonction soi-même, etc. Ou faire des probabilités, ou utiliser l'algorithmique, etc. Donc voilà, donc c'est un changement complet de paradigme, si vous voulez. C'est plus on pose des problèmes avec des questions, etc. et il faut appliquer, c'est plutôt problème ouvert. Voilà, donc c'est très en lien avec l'initiative avec donc, la résolution de problèmes. Vous pouvez dire cela, que donc regardez dans un BO, tapez résolution de problème, et vous allez voir que ça apparaît un peu partout. D'ailleurs, je vous ai mis là en haut un petit peu issu du livre du BO de Terminal S. D'accord, donc les activités proposées en classe et hors du temps scolaire prennent appui sur la résolution de problèmes purement mathématiques issus d'autres disciplines de nature diverse. Elles doivent entraîner les élèves à chercher, expérimenter, modéliser, en particulier à l'aide d'outils logiciels, choisir, appliquer des techniques de calcul, mettre en œuvre des algorithmes, raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels, les mettre en perspective, expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat par oral ou par écrit. Donc voilà, par exemple, ça c'est ce que j'ai trouvé sur le terminal, mais vous avez la même chose, et dans les nouveaux programmes de collège, ça se renforce, puisque c'est l'un des objectifs qui est maintenant affiché pour les maths, c'est-à-dire donner du sens aux maths pour résoudre des problèmes, voilà, pas seulement pour apprendre des connaissances, mais voilà. Donc, prise d'initiative, c'est en lien avec la résolution de problèmes, c'est aussi en lien avec le fait de savoir faire preuve d'autonomie, c'est une compétence qu'on peut demander. Et puis donc c'est réinvestir les connaissances que l'on a mais dans un cadre non spécifié, c'est-à-dire on vous dit pas ceci est un problème de probabilité, on est dans le chapitre des probas, alors il va falloir utiliser les probas, quelle est la dernière proba que vous avez vue, ah c'était la loi normale, alors regardez bien, ça va être la loi normale, d'accord. On essaye au contraire de donner un problème qui est le plus neutre possible mathématiquement, mais et de laisser l'élève agir par lui-même. Voilà, donc pour les problèmes avec prise d'initiative, encore une fois, hein, vous pouvez prendre un problème d'idées classiques de maths et le transformer en problème de prise d'initiative du style si vous vous rappelez hier on avait un problème c'était sur quoi déjà ah oui sur la modélisation de population la France et l'Allemagne d'accord et je vous avais dit si vous avez pris le truc que on pouvait très bien dire la population allemande baisse de 0,2% par an mais il y a 200 000 migrants par an qui rentrent en Allemagne et la population française augmente de 0,2% par an mais il y a 100 000 migrants qui rentrent par an. Et puis, à partir de là, faire la modélisation. Donc, vous voyez qu'un exercice guidé peut être transformé en exercice de modélisation. Pareil pour l'exercice, vous savez, avec les planètes, les satellites, enfin, l'apparition de deux étoiles qui donne lieu à une équation diophantienne, d'accord ? Pareil, vous pouvez très bien enlever toute la partie mathématique, ne laisser que la partie, je crois d'ailleurs que c'est qu'elle était sans mathématiques, hein, quasiment, de laisser que la partie problème concret et puis laisser l'élève donc faire ça. Alors c'est pas exactement la même chose un prêt d'initiative et là ce que je dis c'est modélisation, mais il y a un lien. Vous pouvez aussi avoir prise d'initiative dans un problème purement mathématique dans lequel vous ne donnez pas. Là donc là les deux exemples que je vous ai donnés c'était des problèmes de modélisation, donc il faut prendre l'initiative de modéliser comme ceci ou comme cela. Mais vous pouvez donc aussi avoir un problème mathématique, hein, du style géométrie, etc., où vous demandez trouver le point M tel que l'aire du machin soit maximale, et pas, et voilà, et maintenant c'est à eux de se débrouiller pour savoir comment conjecturer le point M, comment le démontrer, etc., quels sont les outils. Donc voilà, pour cette fois.